Nous avons vu que l'ordonnance du 10 février 2016 introduit dans le Code civil un mécanisme de révision du contrat pour imprévision. C'est l'article 1195 du Code civil. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Bon, laissons de côté le reste du texte pour le moment, mais rappelons que si la renégociation n'aboutit pas, on peut se retrouver avec une partie qui saisit le juge d'une demande pour mettre fin au contrat ou pour modifier le contrat, pour réviser le contrat. Nous allons voir l'aspect plus pratique, les questions que soulève ce dispositif. Et pour voir ça, je suis avec deux praticiens et non des moindres, puisque je suis avec Stéphanie Fougou, d'une part, qui est présidente de l'AFJE, partenaire de ce MOOC, et directrice juridique du groupe Valorec. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Roland.
Et avec Christophe Heck, avocat associé du cabinet Gide, spécialiste de fusion et bonjour, cher Christophe.
Bonjour, Bruno.
Alors, question que pose ce texte. Déjà, une première question que je vous pose à vous deux en tant que praticien. Est-ce que votre réaction en voyant l'introduction de ce dispositif de révision du contrat pour imprévision est une réaction favorable ou au contraire plus méfiante, Stéphanie?
Pour ma part, j'avoue que c'est une réaction un peu mitigée et un peu méfiante. Un peu mitigé dans la mesure où, certes, il existait déjà des clauses que l'on appelle assez habituellement des clauses de hardship, et qui étaient des clauses que les co-contractants avaient parfois l'occasion d'utiliser dans le cadre de grandes négociations et de grands contrats, souvent des contrats de long terme ou en tout cas à enjeu économique très fort, mais pour autant qui étaient laissés à la main des co-contractants et qui étaient laissés à l'opportunité des co-contractants dans leurs conséquences en cas d'imprévisibilité et en cas de grandes difficultés, notamment en spécifiant des critères bien précis dans la manière de le, j'allais dire, d'en sortir ou de le modifier.
Donc et une clause qui va dire par exemple que si le cours de telle matière venait à évoluer au-delà d'un certain montant, d'un certain seuil, alors les parties se réuniraient, c'est ça la clause de hardship, les parties se réuniraient pour discuter du contrat ou peut-être qu'automatiquement les conditions du contrat changeraient.
Alors c'est rare qu'automatiquement ça changerait, mais c'est vrai que très souvent c'était justement comme vous l'indiquez, d'indiquer précisément comment, à partir de quel seuil, à partir de quel critère, un déclencheur permettrait de revoir le contrat pour permettre que, j'allais dire, aux parties de ne pas être totalement, pour le coup, dans une inconnue et permettre à une partie de se sortir assez aisément et de forcer une négociation que l'autre partie n'aurait pas souhaité avoir. Donc c'est là où je dis il existait des choses et des choses que des clauses que aujourd'hui certains contrats, et loin d'être tous les contrats, utilisaient. La situation actuelle est tout de même assez différente puisque de facto, sans y faire quoi que ce soit, le droit français permettra de l'introduire dans le cadre de ces contrats et que si celle-ci ne nous convenait pas, il conviendra dans ce cas-là de prendre une décision inverse. Donc ça change un peu la donne.
D'accord. Christophe ?
Oui, c'est une décision importante d'intégrer et de codifier le concept d'imprévision en droit civil dans les contrats. Je suis pas sûr, je rejoins Stéphanie, je suis pas sûr que ça change beaucoup par rapport à la pratique. Il y a des textes spéciaux qui prévoient dans les cas particuliers, je ne parle pas des baux, etc. Donc comment régler ces imprévisions et puis la gestion du contrat dans le temps. Aujourd'hui, ma première réaction, c'est de me dire, tiens, le droit français rejoint le groupe des droits internationaux, que ce soit l'unidroit ou les conventions internationales, soit le droit positif, je dis positif parce que c'est soit jurisprudentiel, soit déjà dans les textes, des autres grands pays de droit des contrats, que ce soit common law aussi au droit civil. Après, je pense que beaucoup de praticiens verront dans le texte qu'on peut exclure son application, donc se précipiteront pour exclure son application, ce qui ne voudra pas dire que dans le temps, on ne discutera pas, mais pour éviter que le juge ait à se saisir des contrats et à décider. Les praticiens n'aiment pas trop que 10, 15, 20 ans plus tard, un juge puisse rediscuter des modalités de leur partenariat et leur impose des choses que personne n'avait prévues. Ça, c'est peut-être une imprévision qu'on peut contractuellement prévoir.
Alors, si on regarde le texte, effectivement, à nouveau, on voit que, déjà, ne sont pas visés que certains contrats. C'est visiblement quand on nous dit la conclusion du contrat, on ne vise pas une catégorie particulière de contrats. Maintenant, on peut penser que ce sont en priorité les contrats à exécution successive ou les contrats de longue durée qui sont concernés. Et puis, une question que pose ce texte, c'est celle de savoir si, quand on nous dit qu'une partie, ça rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Donc on comprend qu'il doit être possible d'assumer ce risque, et donc on comprend que ce texte effectivement n'est pas d'ordre public, et on a cette idée que lorsqu'un texte du droit des contrats, c'est ce que nous avons vu dans une autre vidéo, lorsqu'il n'indique pas être d'ordre public, eh bien, on peut l'écarter. Et donc, l'idée, c'est qu'on va avoir des clauses qui vont écarter le dispositif de l'article 1195. Et alors, question que je pose à Stéphanie et à Christophe ensuite, est-ce que vous sentez que dans votre pratique, on aura systématiquement une clause anti-1195, une clause qui écartera toute possibilité de révision par le juge sur ce fondement ?
Je pense très sincèrement que ça sera très souvent le cas. Je pense que autant la clause de hardship est une clause qu'on n'utilise pas toujours, parce qu'il y a des cas dans lesquels on n'a pas du tout envie qu'il y ait cette porte ouverte à une sorte de boîte de Pandore, et les choses sont assez cadrées pour permettre de rester ainsi. Deuxième chose, je pense que quand on souhaitera le faire, on restera sur une négociation entre parties, avec des choses très précises, comme on l'indiquait sur des critères. Je n'envisage pas que les co-contractants aient envie assez naturellement de remettre dans les mains d'une tierce partie qui est un juge, la revisite d'un prix, d'un objet et d'une manière de constituer le contrat. Je ne pense pas que les co-contractants seront très favorables à ça. Donc je pense qu'on va certainement aller vers une exclusion, quitte à ce que des clauses de hardship soient réécrites autrement, mais contractuellement, comme on en a l'habitude.
Je suis d'accord avec Stéphanie. C'est intéressant, le concept d'un prévision, mais c'est assez rare aujourd'hui, parce que les parties, la nature des contrats a évolué, la rédaction a évolué, donc les parties de plus en plus prévoient, pas l'imprévisible, mais prévoient les évolutions des contrats et comment y remédier. Et ensuite, on a des clauses d'expertise, on a des référents, etc. Donc, au global, on est rarement dans la situation, on se dit, tiens, là, je suis dans un cas d'une imprévision, comment va-t-on faire? On a du mal à trouver une solution. Donc, je pense que le réflexe premier sera d'écarter l'application de cette clause, de cet article, pour ouvrir la porte à d'autres modalités de règlement des difficultés dans l'exécution, dans l'application du contrat et de son évolution.
D'accord, avec une question qui se posera aussi sans doute, qui est celle de savoir si, lorsque les parties ont prévu une clause de hardship, n'ont pas expressément écarté l'article 1195, mais ont prévu que, elle pourrait, en cas de difficulté dans l'exécution du contrat, se rencontrer pour le rediscuter. Est-ce que cela vaudra clause d'exclusion? Est-ce que cela sera interprété par les juges comme implicitement, les parties ont accepté d'assumer le risque et ont accepté de l'assumer en envisageant une rencontre en cas de difficulté? Ou est-ce qu'il faudra avoir écrit expressément que l'on écarte l'article 1195 pour se trouver en situation d'être protégé de la révision judiciaire?
J'ai un peu le sentiment que l'on se dirige parfois vers un mode assez anglo-saxon. Et dans les modes anglo-saxons, j'allais dire, tout ce qui est écrit, et il vaut mieux l'écrire pour en être sûr. Et je crains, ou en tout cas, je pense que peut-être par précaution, les praticiens auront à cœur que de véritablement l'exclure et le rediger. Donc j'aurais tendance à dire que ça sera une exclusion qui devra être de manière... En tout cas, ça serait la recommandation qu'en tant qu'association professionnelle, on pourrait donner à nos praticiens.
D'accord. Rappelons que ce texte ne va s'appliquer qu'au contrat conclu à compter du 1er octobre 2016, sauf à ce que, peut-être, on peut tout imaginer, un juge se dise que finalement, alors ça n'est pas applicable au contrat conclu antérieurement, mais ça ne fait peut-être que révéler une règle qui était en germe dans notre droit des contrats. Voilà, ce qui serait pour le coup peut-être plus
audacieux.
Étonnant. Voilà, audacieux en tous les cas. Eh bien, je crois que nous avons fait à peu près le tour des questions que pose ce texte. Et chers amis, je vous remercie.
Merci.